Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 456 du podcast Touchdown Actu. Mathieu, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. À mes côtés cette semaine, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut à tous.
On doit être en plein hiver parce que j'ai vu que Raphaël a des manches.
Ouais, ça commence à être les temps durs, c'est clairement.
C'est les trois semaines de l'année où Raphaël met des manches. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas.
Salut messieurs, salut tout le monde. Je joue à l'extérieur moi aujourd'hui.
Oui, on voit ça. Le fond derrière toi n'est pas le même, puisque évidemment, maintenant avec Zoom, on ne se parle que sur des fonds. Les gens ne savent plus le reste. Le fond a donc changé derrière toi. Bon, ça va, t'es pas trop loin quand même.
Sans
dévoiler trop.
Ça va. Je suis à fond. Je suis à fond.
T'as pas de décalage horaire.
Normalement, ça va. Pour l'instant, ça va.
Ça va, bon. Très bien, messieurs, cette émission vous est présentée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes de Noël qui approchent, vous pouvez profiter de la collection spéciale de Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Ça se passe chez JD Sport, pardon, dans les points de vente évidemment, et sur le site internet. Les liens sont dans l'article du podcast. Les Rams sans difficulté, les Packers et Buccaneers replacés dans les favoris, les Cowboys qui rament. Une course grande ouverte en AFC. C'est parti pour un nouveau podcast de débrief.
What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
Faut quand même avouer que Michael Robinson, c'est le plus pro quoi au niveau du jingle. Hein. On peut pas lui retirer ça. Il y a tout. Hein. Il y a le petit bonjour à mes fans en France, Super Bowl champ, analyste. Il fait tout son CV en 3 secondes là. C'est.
Et puis il y a le côté américain, un peu de chill. On aime bien.
C'est parfait. Packers 36, Rams 28. Question très simple, messieurs. Qu'est-ce qui ne va pas chez les Rams? Voilà.
Ah, c'était simple.
Trois défaites de suite, qu'est-ce qui se passe?
Presque une émission à part entière. Écoute, alors à titre personnel, j'irai vers l'attaque d'abord et avant tout, j'ai envie de dire, parce que cette attaque, depuis plusieurs semaines, patine un peu. Alors, il y a assez de qualité pour pas patiner style Jaguars, style Giants et mettre 6 points par match, tu vois. Mais elle n'est pas au niveau attendu parce que Matthew Stafford, depuis un mois maintenant, est globalement en galère sur ses matchs. Est-ce qu'il est un peu blessé? Est-ce qu'il a des petites douleurs passées? Notamment, c'est un joueur qui a eu souvent des petites blessures au dos. Est-ce qu'il y a des petits problèmes au dos qui reviennent? Parce que c'est des blessures dont tu te débarrasses jamais facilement. Peut-être. En tout cas, pour moi, le problème vient de là. Il y a un problème dans le jeu aérien. Il y a la blessure de Robert Woods qui n'a pas aidé du tout parce qu'on oublie, mais Robert Woods était une part importante de cette attaque aérienne avec Cooper Kupp. depuis plusieurs saisons maintenant. Voilà, je pense que en parlant du jeu aérien, on met à mon sens le doigt sur le problème principal.
Lucas, même chose, l'attaque.
Oui, alors moi je suis assez d'accord. Après, du côté de Stafford, oui, il est peut-être blessé. On a été les premiers à dire que le match de retour, en tout cas, il y a des certains matchs qu'il a peut-être, en tout cas, pas été aussi bon qu'il aurait dû parce que il a peut-être encore des blessures. Après, en fait, c'est l'expérience Stafford. On le sait, c'est un quarterback qui est bon, qui a des périodes où il est très très bon et on se dit c'est un joueur qui peut être MVP et puis qui a des périodes qui est un peu moins bon. Il a toujours été un petit peu inconstant dans sa carrière et on s'imaginait qu'il allait être avec Sean McVay et qu'il allait faire une saison incroyable. Et en fait, il a commencé très fort et puis en fait, il y a des moments et puis ça m'étonnerait pas qu'en fin de saison, il redevienne aussi fort qu'il était en début de saison. Alors, je pense que oui, ses blessures expliquent, mais en fait, on le découvre pas, Stafford. Pour moi, on a été un petit peu leurré parce qu'il arrivait aux Rams, parce qu'il y avait beaucoup de cibles autour de lui, en tout cas une belle équipe autour. Mais en fait, c'est Stafford, c'est un très, très bon quarterback qui est pas forcément tout le temps constant sur la durée d'une saison.
Oui, oui, non, mais c'est sûr. Après, au-delà de Stafford, il y a quand même il y a plus vraiment de jeu au sol.
Il n'y en a jamais vraiment eu.
Ou très peu, depuis Todd Gurley. Et puis après, oui, si Stafford se met à lancer des pick six, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un problème aussi au niveau de la ligue parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de blitz des Packers et pourtant, ils se sont quand même retrouvés en difficulté, quoi.
Ouais, le centre de la ligne, notamment, m'a semblé assez en difficulté pour le coup, avec pas mal de pression de l'intérieur. Comme tu dis, il y a peut-être un peu de complications à ce niveau-là. Après, ça me semble pas être non plus le point sensible. Et je pense que les Rams doivent pouvoir faire malgré tout avec ces petites faiblesses sur la ligne offensive. C'est pas, ça m'inquiète pas outre mesure pour le coup. Mais donc
c'est juste Stafford, c'est l'alchimie avec les receveurs. C'est quoi? En fait, il n'y a que Cooper Kupp qui est le moteur de cette attaque aérienne, quoi.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on dise ça. Non, je me dis, et ça fait quelques semaines que c'est en train un petit peu, et quand on écoute un petit peu du côté de la NFL et on lit un petit peu des articles, il y a cette impression, et c'est vrai que quand on regarde dans le match, c'est que les Rams sont un petit peu soft. On a un petit peu cette impression-là que ils ont les joueurs, le talent est là. Des deux côtés du terrain, le talent il est là et on peut prendre cet effectif et on le dit à chaque fois, il est incroyable. Mais on a l'impression qu'ils sont pas à fond, qu'ils sont un petit peu soft à l'image de ce touchdown j'ai plus les noms en tête, mais qui est pris où on se dit bah il doit jamais y avoir touchdown. Voilà, on a l'impression que quand il y a du 50-50, bah, ça tourne en faveur de l'équipe d'en face. Et en fait, quand c'est ça sur tout le match, bah, ça donne des résultats comme ça. Et quand il y a une équipe qui est solide en phase 2, eh ben ça donne des défaites comme celle-ci.
Oui, équipe solide en effet. Alors juste avant de passer aux Packers, un mot parce qu'on n'a pas dit son nom. Odell Beckham est quand même dans cette équipe. Il a capté 5 ballons. Le match était quand même plutôt déjà plié quand il fait ses stats. Faut lui laisser du temps. Il y a une question de système. Raphaël a plutôt l'air de la team laisser du temps.
Moi, j'attendrai encore un peu. Au final, c'est son deuxième match, si je dis pas de bêtises. Bon, deuxième match, il marque son touchdown. Je tirerai pas un trait en disant l'expérience est déjà ratée, tu vois. Bon, on va voir. Et de toute manière, cette arrivée est devenue nécessaire depuis la blessure de Robert Woods pour la saison. Enfin, ils avaient besoin d'une deuxième cible, même s'il y a l'émergence du deuxième année Van Jefferson qui est en train de se faire remarquer. Bon, il en faut. Donc. J'attends encore avant de faire un bilan vraiment sur cette arrivée-là.
Le problème, c'est qu'Odell Beckham, il remplace pas Robert Woods pour l'instant, en termes de jeu, en fait. Mmh. C'est qu'Odell Beckham, il a beau être tout ce qu'il a été, et c'est vrai qu'à son meilleur niveau, c'est le receveur presque numéro un, mais pour l'instant, c'est entre Robert Woods et Odell Beckham, c'est une perte de niveau pour l'instant. Mmh.
Oui, puisqu'il a surtout été en ce moment, Odell Beckham. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été sur le moment. 39 minutes de possession quand même. Leur défense a un peu pris cher. Un seul sac. Les Packers ont complètement mangé l'horloge. Est-ce que c'est une très, très bonne défense, la défense des Rams? Ou est-ce que c'est une honnête défense?
C'est plus la défense que c'était l'année dernière, en tout cas. Pareil, on va lui laisser du temps, mais Von Miller fait pas un grand match. Et encore une fois, il rentre dans un système où il va falloir qu'il prenne du temps. Mais forcément, quand on a des noms comme ça, on s'imagine qu'ils vont être excellents d'entrée. Ça n'a pas été le cas. Et en effet, cette défense, alors oui, il y a Aaron Donald, oui, il y a Jalen Ramsey, mais pour l'instant, il y a en effet, c'est pas aussi bon que l'année dernière. C'est pas un niveau homogène aussi bon que l'année dernière, je pense.
Raphaël, toi qui es de la type Donald.
Je vous trouve un peu dur là-dessus, même si effectivement, Von Miller, pour le moment, a pas d'impact, hein, on est d'accord. Là où je vous trouve un peu dur malgré tout, c'est que, alors, oui, ils sont peut-être un peu moins forts que l'an dernier, mais pour moi, ça reste encore une très bonne défense. Quand tu regardes sur ce match, sur les 36 points qu'ils prennent, t'as une interception, t'as un pick 6 lancé par Matthew Stafford. T'as trois drives que Green Bay commence dans les 25 yards adverses parce qu'il y a des erreurs de l'attaque. Et sur ces trois drives, ça fait un touchdown et deux field goals. Au passage, hein, ils limitent quand même à chaque fois les Packers sur ces drives-là à des field goals. Donc, dans l'équation, sur les 36 points pris, t'en as quand même 20 où Green Bay commence son attaque dès les 30 yards des Rams. Donc, je trouve que dans ce contexte-là, je pense qu'il y a des défenses qui prenaient 4 touchdowns et ça faisait une addition encore plus salée. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que la défense est peut-être pas au niveau de l'an dernier en termes d'impact, mais que ça reste une des très bonnes défenses et qu'à mon avis, si c'est pas cette défense, Green Bay, ils en passent 50 hier. Ce week-end, non?
Ouais, mais ça dépend si on les compare à des défenses, les autres défenses de NFL ou si on leur compare à leur défense l'année dernière. Je suis pas sûr, faudrait vérifier qu'ils aient pris beaucoup de fois 36 points l'année dernière et on peut pas dire que l'attaque était bien meilleure que cette année.
Ah oui, non, c'est sûr.
Ça, c'est sûr. En tout cas, leur défense a l'air un peu moins bonne que celle de Green Bay, parce que pour le coup, Joe Barry, le coordinateur, je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup cité cette année, fait quand même un très, très gros boulot, avec des noms moins ronflants. Là, les stars, c'est Rashan Gary qui a 6 pressions et un sac, Kenny Clark qui a un sac. J'ai l'impression que c'est la différence avec les saisons précédentes pour Green Bay. On en a déjà un peu parlé ces dernières semaines, mais en théorie, ils ont une très bonne défense. Et en théorie, on jure de rien parce qu'ils se sont souvent écroulés en playoff ces dernières années. Mais cette défense, elle fait la différence aussi dans ce match. Lucas.
Oui, elle fait la différence, clairement. Clairement, elle fait la différence. Alors, voilà, attention, faut voilà faire gaffe au gros jeu, au jeu explosif qu'ils ont pris aussi. Mais voilà, c'est vrai que sur la durée d'un match, ils ont vraiment une défense qui est de plus en plus solide, qui arrive parce que Stafford n'est pas incroyable, mais ça reste Stafford, ça reste Cooper Kupp, ça reste Odell Beckham, et ils font le travail. Il y a encore un pick six, je crois que c'est Rasul Douglas qui avait fait une interception aussi précédemment. Voilà, il y a des noms qui sortent, et puis tu le disais, c'est pas forcément des noms vraiment ronflant, j'allais dire Alexander est blessé, mais il y en a d'autres, Rashan Gary qui est important. Voilà, ils ont vraiment une défense très solide, et quand on sait que ils ont cette attaque qui est capable d'exploser à tout moment, ça en fait des contenders très très sérieux.
Raphaël, tu veux rajouter quelque chose sur cette défense? On en avait déjà parlé il y a 2-3 semaines, je crois, quand on avait parlé des Packers.
Non, effectivement, elle est très bonne, et je pense que le positif, c'est les absents. Enfin, le positif à venir, c'est le retour d'absents importants comme Jerry Alexander notamment. On se dit qu'avec et du coup un des deux Smith, je crois que c'est Preston Smith qui doit revenir de blessure. Tu dis qu'avec Smith qui revient et Alexander, la défense a de quoi en termes de talent passer encore un cap. Donc c'est forcément très très positif pour la suite, surtout quand on voit le reste de la NFL qui stagne un peu, on peut dire ça comme ça.
Du côté de l'attaque, on va peut-être pas faire l'apologie, mais Aaron Rodgers a réussi des passes de 54, 43, 28, 22 yards dans ce match. Edgy Dillon a assuré au sol, Aaron Jones était de retour, Davante Adams est toujours là. On est sur une des équipes les plus complètes de la ligue, si on peut résumer ça comme ça pour finir.
Oui, clairement. Et puis en plus, je crois qu'ils sont à 5 victoires, aucune défaite à domicile. Ils sont très bien placés au classement en NFC. Ils ont battu les Cardinals. Donc si en plus il y a un tiebreaker, ils pourraient être devant. Ça va être important pour eux de jouer à domicile en playoff. Et pour l'instant, ils sont bien partis pour.
Tu veux dire que c'est chez eux qu'ils vont s'écrouler en finale de conférence cette fois?
C'est pas moi qui l'ai dit, hein.
Les 49ers 34, Vikings 26, 208 yards au sol, 230 yards pour Jimmy Garoppolo, nouvelle victoire des 49ers. La défense qui a aussi répondu présent, stoppant les Vikings quand même deux fois sur quatrième tentative en fin de match. Ça fait donc trois victoires de suite pour les Niners. C'est la même recette que la saison où ils vont au Super Bowl, très simplement.
Raphaël. Globalement, c'est ça. Avec peut-être même encore un peu plus... alors d'armes, je sais pas si c'est le terme, mais peut-être qu'en attaque, la saison où ils vont au Super Bowl, il y avait pas en plus Ayuk. Enfin voilà, je trouve qu'ils ont peut-être en plus une arme offensive de plus, peut-être à ce niveau-là. Non, mais ils sont en train effectivement de retrouver cette solidité offensive, défensive, le backfield défensif depuis le retour notamment de Ward, ça va quand même mieux à ce niveau-là. Hein, faut le souligner. Donc ils ressemblent à cette équipe, ils ont la dynamique. On sait à quel point en NFL c'est important les dynamiques à ce moment-là de la saison. Donc quasi tout est positif encore une fois sur ce match, je trouve, pour San Francisco.
Lucas, tout est positif.
Ouais, tout est positif. C'est exactement ce que je me suis noté quand je regardais ce match. Je me disais que ça ressemble en effet. Les ingrédients, la recette, c'est la même que celle qui les a fait aller au Super Bowl. Alors, c'est vrai qu'on n'y est pas tout à fait encore parce qu'il faut, encore prouver. Il faut sur toute la saison, il faut le faire en playoffs, ce qui n'est pas forcément assuré. Mais en effet, les ingrédients sont là. Ils ont un jeu au sol qui est retrouvé avec, cette fois, c'était Mitchell, mais il y a Debo Samuel qui fait tout dans cette équipe. Ils ont vraiment une équipe complète aussi, qui va de mieux en mieux. Ils arrivent à instaurer de longs drives et quand ils sont devant, ça c'est très important. Là, ils mangent encore 7 ou 8 minutes sur leur dernier drive. Certes, c'est la défense qui arrête les Vikings, mais cette attaque elle est importante, ce drive il est important pour manger le chrono. Donc en effet, comme disait Raph, tous les voyants sont au vert.
Il y a Debo Samuel aussi qui fait une jolie touche supplémentaire par rapport à leur saison du Super Bowl. Là, il a 66 oui. yards au sol, 2 touchdowns. Il est censé être un receveur, mais dans les faits, il est plus coureur sur ce match. Il a moins de réceptions, il en a une ou zéro d'ailleurs même. Enfin bref, il est plus coureur sur ce match. Petite blessure aux adducteurs, c'est l'inquiétude de la semaine pour Debo Samuel. Fred Warner va aussi manquer le prochain match. Pour le reste, donc ils sont plutôt de retour. On développera sur eux dans l'émission de jeudi. Donc je vais pas tout spoiler. Sachez qu'on parlera d'eux en long, en large et en travers avec Lucas jeudi. Pour les Vikings, on savait qu'ils allaient finir par décevoir. Donc c'est arrivé dans ce match-là. Dalvin Cook se déboîte l'épaule, donc il va louper aussi 2-3 semaines. On peut pas leur reprocher de pas avoir été agressif. 3 fois, ils ont tenté la 4e tentative, ils ont réussi qu'une seule fois. Raphaël, quand même, tu salues l'initiative de tenter des 4e.
Oui, je salue tout à fait cette initiative-là des Vikings. Je pense pas qu'ils perdent le match là-dessus, à mon avis, hein, sincèrement. C'est pas tellement sur ces faits de jeu-là. Donc, tant mieux si Mike Zimmer se lâche enfin, j'ai envie de dire ça comme ça.
Ils perdent le match sur quoi alors?
Il y a ces petites erreurs, ce fumble de Dalvin Cook dans ses 20 yards de mémoire, 20 ou 30 yards. Il y a cette interception de Cousine. Ouais, je pense qu'ils le perdent sur ces petites erreurs-là qu'ils font parce que ça reste une équipe irrégulière comme on le voit depuis 3-4 ans, j'ai envie de dire maintenant. Donc,
mais c'était un peu mon autre question, quoi. Ça reste une bonne équipe, on sait ce qu'ils peuvent faire, mais c'est toujours dur d'analyser leur match, sachant qu'on sait qu'ils ont plein de qualités, mais qu'il manque parfois la finition ou la rigueur, quoi, Lucas.
Bah, en fait, pour moi, ces deux équipes-là, elles arrivaient à 5-5 l'une contre l'autre dans la même conférence. Et pour moi, c'était un match un peu tournant pour l'une ou pour l'autre. En tout cas, même pour les deux, même si les Vikings à 5-6, ils sont toujours dans la course parce que la NFC, on en parlera peut-être plus tard, mais est catastrophique dans cette partie-là du tableau. Mais je trouve que c'est un tournant parce que, voilà, les 49ers ont prouvé qu'ils appartenaient à ceux du dessus, aux équipes qui ont un bilan positif, alors que les Vikings appartiennent toujours aux équipes qui ont un bilan négatif. Pour moi, et voilà, c'est criant. Et pour moi, la défaite là, et je le dis parce que il a été quasiment irréprochable toute la saison, c'est Kirk Cousins. Et en fait, on commençait un petit peu à en parler pour un potentiel MVP. La malchance a encore frappé, en tout cas, la poisse a encore frappé. Il lance une interception, lui qui n'en avait lancé que deux. En plus, celle-là est horrible. Donc voilà, pour moi, c'est lui. Alors, c'est malheureux parce qu'il fait une belle saison, mais pour moi, c'est lui cette semaine.
Ouais, les Vikings sont 8e au classement de la NFC dans la course aux playoffs. Les 49ers sont 6e, donc clairement, et Minnesota est égalité avec le 7e qui serait qualifiable pour les playoffs. Il y a juste des histoires de tiebreaker pour l'instant, mais clairement, ils sont toujours dans la course. Colts 31, Buccaneers 38, match très mal engagé qui a fini par tourner en faveur des Buccaneers. Alors, pas tant grâce à Tom Brady qu'à la défense et à Leonard Fournette. 5 ballons perdus pour les Colts qui ont laissé échapper ce match assez littéralement, j'ai envie de vous dire là.
Ouais, ils l'ont, comme tu dis, ils l'ont laissé échapper. Il y a ces erreurs, notamment sur équipe spéciale, mais pas que. On a revu un peu, je trouve, les Buccaneers de playoffs de l'an dernier. Grosse défense, très physique. avec leur run stop qui reste quasiment inégalé dans cette ligue, hein, parce qu'ils ont, sauf sur un drive, ils ont sinon éteint Jonathan Taylor de tout le match. Et puis Leonard Fournette qui est ressorti de sa boîte un peu comme il l'avait fait en playoff, en étant au four et au moulin, 3 touchdowns au sol, 1 à la réception. Donc oui, on... côté Tampa Bay, on se remet en place tranquillement comme il faut au moment où il faut, j'ai envie de dire.
Défense opportuniste et Leonard Fournette efficace, c'est vrai que c'était très playoff. Et Fournette apparemment a remotivé tout le monde à la mi-temps, hein. Rob Gronkowski a dit que c'est son discours qui a bougé les fesses de tout le monde. Lucas, t'as vu la même
et
chose?
Oui, j'ai vu la même chose. Et puis Gronkowski aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais on le disait il y a quelques semaines, il est important pour cette attaque, il est important pour Tom Brady. Alors là, il fait 123 yards, il fait un super match. Mais même des fois, quand il fait pas un match statistiquement incroyable, il est très important pour cette attaque, pour Tom Brady, parce que il a l'habitude de jouer avec lui, il ouvre des espaces. Et là, on a beaucoup moins vu Mike Evans et Chris Godwin, parce que la défense était concentrée sur eux. Mais le jour où la défense sera plus concentrée sur Fournette et sur Gronkowski, il y aura l'espace sur les receveurs écartés. Voilà, j'attends encore le retour d'Antonio Brown qui va encore faire du bien, parce que là, quand il faut chercher une cible un petit peu plus différente, c'est plus compliqué pour Brady. Enfin, voilà, toute proportion gardée. Quand Antonio Brown sera là, on aura vraiment la même équipe, en tout cas l'équipe qui peut aller faire un doublé nettement.
Ouais, et puis il va sauver ma fantaisie, Antonio Brown, je le sens. Je le sens, j'attends plus que lui, il est sur mon banc là depuis des semaines. On l'avait dit dans l'émission de jeudi, la balance des turnovers était largement en faveur des Colts avant ce match. Ça n'a pas été le cas du tout dans celui-là. Carson Wentz perd 3 ballons en deuxième mi-temps. C'est aussi simple que ça en fait, tu ne peux pas faire ça contre une grosse équipe. Oui. C'est une occasion ratée pour Carson Wentz, parce que c'était l'occasion de montrer qu'il avait les épaules. Il fait un super début de match, ils sont bloqués au sol, lui il s'en sort. Surtout sur le second quart, ils ont 3 touchdowns à la suite. Mais derrière, finalement, petite occasion ratée pour Carson Wentz, là, Raphaël.
Ouais, effectivement, petite occasion ratée pour lui. Comme tu dis, première mi-temps assez impeccable hein, de sa part, où il dissèque le backfield défensif de Tampa Bay. Et d'ailleurs, de manière assez étonnante, parce que Frank Reich appelle quasiment plus aucune course et fait confiance totalement à Carson Wentz, et ça fonctionne. Donc là, tu dis, ah ok, on a enfin retrouvé ce qu'on a pu voir dans Carson Wentz à un certain moment. Et puis, il y a ces petites erreurs en seconde mi-temps. Certaines ne sont pas que de sa faute. Il y en a d'autres où c'est clairement pour lui. Je suis aussi un peu gêné par la puissance de son bras, parce que sur le dernier drive où il a l'occasion d'aller chercher une Ave Maria, il n'y a juste pas de jus dans le lancer. Ouais. Enfin, ça finit ça finit quand même devant la end zone, alors qu'il n'est pas une distance incroyable non plus. Enfin, toute proportion gardée pour un quarterback NFL, entendons-nous. Donc oui, du coup, tu te dis que voilà, c'est ce qu'on a tout vu de Wentz là à nouveau sur ce match. Ça, il y a des bons côtés et puis des fois c'est un peu moins bien. Donc il va falloir que tout le casting autour soit au top. Après, la défaite est pas déshonorante, hein. 38-31 face aux champions au titre. Quand on voit d'où reviennent les Colts par rapport à leur début de saison. Tu dis que si tu gardes cette dynamique, la FC, elle est pas. Les playoffs restent ouvertes, à mon sens.
Ah oui, complètement. Complètement. Lucas.
Ouais, non, je suis totalement d'accord. Moi, pour moi, je retiens plus la victoire des Bucks que des Colts, parce que c'est quand même pas évident d'aller gagner à Indianapolis. Ils l'ont fait, ils font de belle manière. Pour moi, c'est plus les Bucks qui vont le gagner que les Colts qui le perdent. Après, certainement, il y a des trucs à modifier ou à améliorer, notamment Wentz, comme le disait Raph, mais je retiens surtout la victoire de Tampa Bay, ouais.
Ouais, en mode playoff rassurant, donc pour Tampa. Cowboys 33, Raiders 36 après prolongation. C'était un des matchs de Thanksgiving. Les Cowboys ont égalisé sur un field goal à 19 secondes de la fin pour arracher la prolongation. Ils ont même eu le premier ballon de la période supplémentaire, mais ils n'en ont rien fait. Ils perdent sur un field goal. Est-ce que c'est juste parce qu'il leur manquait Amari Cooper et CeeDee Lamb, ou bien il y a un problème plus profond, puisque ça fait 3 défaites en 4 matchs quand même pour Dallas, Lucas?
En tout cas, déjà, je tenais à dire que c'était peut-être le plus beau match de la semaine. Je sais pas pour vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis régalé devant ce match-là.
Il fallait aussi aimer les pénalités quand même.
Fallait aimer les pénalités. C'est vrai, mais en tout cas, en termes de suspense, il y avait quand même de belles actions. Il y a eu des belles choses. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pénalités. Je crois qu'il y en a eu 28.
14 chacun.
Voilà. Donc déjà, il y a 166 yards de pénalité pour les Cowboys. Déjà, là, il y a une partie de la réponse à ta question.
Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus si c'était sur les commentaires du site ou en réponse à notre Twitter, qui disait que il y a eu plus de yards de pénalité dans ce match que de yards pour Jared Goff sur un match typique, en fait.
Ouais. c'est sûr.
Voir toute l'attaque de Détroit, je crois, parce qu'il y a genre 240 yards de pénalité sur ce match.
Ouais, 266, je crois, exactement, ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Donc oui, non, c'est vrai que c'était beaucoup. Mais après. Voilà, pour répondre à ta question, j'ai trouvé que contre les Broncos et les Chiefs, la défaite des Cowboys, j'ai trouvé qu'ils étaient absents. C'était un petit peu des non-matchs. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient là et qu'ils sont tombés contre plus fort qu'eux. Alors du coup, la réponse, c'est peut-être que ça devient... En tout cas, c'est peut-être un peu inquiétant parce que certes, il manquait ces deux receveurs-là. Enfin, inquiétant, c'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, ils sont tombés contre plus fort qu'eux et les Raiders, c'était plus fort. Il ne faudrait pas que ça perdure, quoi.
Raphaël, inquiet ou pas pour Dallas ?
Inquiet, je sais pas, mais c'est peut-être là pour le coup, c'est peut-être le problème de la défense avant tout, parce que ce que t'attends d'une équipe qui va au bout en NFL, c'est que la défense à certains moments soit capable de prendre le relais de l'attaque ou de l'aider au moment où ça va pas trop. Et là, on voit, moi je trouve sur ces dernières défaites, on voit que c'est en partie la défense de Dallas qui joue pas forcément son rôle, parce que les trois défaites que tu parles sur les quatre derniers matchs, sur ces trois défaites, il y a trois matchs où bah t'as pas CeeDee Lamb, t'as pas Mary Cooper, et où donc l'attaque est un peu amputée. Elle arrive à mettre des points parce qu'il y a quand même Dak Prescott, parce qu'il y a des joueurs, parce qu'il y a Kellen Moore, le coordinateur offensif. Mais ils auraient besoin de ce petit coup de pouce de la défense. Et là, bah on voit plus Trevon Diggs faire les interceptions, on voit plus forcément de fumble comme il le faisait en début de saison. Et donc, je pense que le problème vient peut-être de la défense de Dallas qui, depuis un mois maintenant, n'arrive plus à...
Après, je te trouve un peu dur
aussi
que
décisif.
La semaine dernière, ils prennent que 19 points contre les Chiefs. Ouais. Ils font 9 à 19. Certes, il manquait Cooper, mais...
Okay, t'as le match de la semaine dernière, mais le match contre les Broncos, le match contre les Raiders, ils prennent trop de points face à des attaques contre qui ne devraient pas en prendre autant, à mon sens.
En tout cas, oui, les défenses étaient clairement pas à la fête. 940 yards en cumulé, aucune perte de balle, quel que soit le côté, il n'y a eu aucun ballon volé. Donc, il n'y a pas eu d'opportunisme, il n'y a rien eu. Les Raiders donc, en ont profité. 24 sur 39 pour Derek Carr, 373 yards, un touchdown. DeSean Jackson et Hunter Renfrow à plus de 100 yards chacun. Finalement, ils sont toujours vivants. Ils sont dans la course au playoff. Ils jouent par à-coup, les Raiders, en ce moment. Donc, c'est très dur à lire. Est-ce qu'on doit vraiment y croire ? Leur défense, qui avait été une force à un moment-là, n'a pas été vraiment là, mais c'est l'attaque qui a repris le relais. Donc, c'est presque une bonne nouvelle aussi. Ils se sont réveillés en attaque.
Ouais, DeSean Jackson a été bon. Ça n'avait pas été le cas la semaine dernière. Il a été bon. S'il est comme ça tous les matchs, il va leur faire beaucoup de bien. Ils ont réussi à mettre beaucoup de points. Darren Waller a été un petit peu blessé. Je crois qu'il a été absent toute la fin de match ou une grande partie. Et pourtant, ils ont continué à maintenir le rythme.
Et il sera absent un ou deux matchs.
Donc voilà, ils peuvent se baser sur cette fin de match pour continuer. On sait qu'il y a eu beaucoup de changements dans cette attaque avec des receveurs qui se sont écartés d'eux-mêmes. Mais voilà, je pense que ce DeSean Jackson peut leur faire du bien. Encore faut-il qu'il soit constant, ce qui n'a pas tout le temps été son cas.
Oui, on va peut-être pas s'emballer là-dessus tout de suite, quand même. Raphaël, tu crois à une course au play-off effrénée des Raiders ?
Ils sont dedans. On le dit, on le répète, mais cette septième place en play-off va sans doute permettre à des équipes avec un bilan tout juste à l'équilibre d'y aller. Donc oui, ils sont dedans. Ça me paraît pas improbable. Quand tu vois en AFC à l'heure actuelle, c'est tellement homogène, il y a tellement des pépins de blessures un peu partout que, à part une ou deux équipes, le reste.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. On parle beaucoup de course au play-off, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut qu'on attende maintenant la semaine 15 pour en parler tellement c'est large, en fait, avec à la fois l'équilibre en NFL cette année, parce que ça joue, hein. Avant, il y a eu des années où c'était décidé plus vite. Et puis, le nombre de matchs rallongés plus le nombre de qualifiés rallongés, ça fait en effet une course au play-off qui met plus de temps à se dessiner. Les Cowboys, eux, sont à 7-4. Ils sont plutôt tranquilles en haut de la NFC Est, hein, au niveau du classement. Donc, ça, il n'y a pas encore le feu au lac. On va faire une petite pause et puis on se retrouve pour le reste des matchs.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les autres matchs de la semaine, c'est tout de suite avec le Patriots 36, Titans 13. Les Patriots ne sont plus une équipe en reconstruction. Maintenant, ils sont officiellement deuxième de l'AFC et c'est une des équipes les plus solides du moment dans la conférence. Excellente défense qui arrache 5 ballons, 105 yards au sol en attaque et puis Mac Jones toujours aussi propre. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas dit sur les Patriots ces dernières semaines? Parce que c'est les mêmes matchs. Ils font encore une fois ce qu'on avait prévu qu'ils fassent. Et Mac Jones continue d'être très bon en plus, Lucas.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que ce sont les mêmes matchs, dans le sens où en fait ils trouvent toujours au bout d'un moment la solution. Mais la solution elle n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps la même. Mmh. Ça a été le jeu de course comme tu l'as dit. Là, ça a plus été le jeu de passe et les turnovers parce que la défense a quand même pris quelques yards quand même, mais ils ont réussi à provoquer des turnovers. Je suis d'accord avec toi pour dire que le résultat final est toujours le même et le chemin, c'est souvent le même. C'est-à-dire que c'est sur la durée du match qui fatigue leurs adversaires, que Belichick trouve des solutions, les fameux ajustements à la mi-temps dont on parle depuis des années avec Belichick qui font toujours aussi autant de dégâts. Maintenant, parfois c'est la passe, parfois c'est la course et le luxe de cette équipe, c'est qu'elle peut être relativement bonne partout sans être incroyable, mais elle peut être relativement bonne partout.
Raphaël, Mac Jones, il est relativement très bon partout. Enfin, 22 sur 32, 300 yards de touchdown. Il est dans les bons quarterbacks du moment, quoi.
Ah oui, bah depuis la semaine 7, ouais, ils enchaînent à peu près 5. Puis la semaine 7, il est très très bon. Il fait partie des meilleurs quarterbacks de la ligue sur cette période-là parce que il fait pas d'erreur, parce qu'il fait avancer cette équipe. C'est vraiment très très propre. Non, bah qu'est-ce qu'on peut dire de plus si ce n'est peut-être insister sur le coaching staff parce qu'on l'a peut-être finalement moins fait ces dernières semaines. On a beaucoup mis en avant les joueurs et à juste titre parce que c'est eux sur le terrain. Mais là, ce qu'est en train de faire le coaching staff de Bill Belichick est assez incroyable parce que la défense a retrouvé de la solidité malgré des départs comme celui de Stephen Gilmore. La ligne offensive est redevenue une force cette saison. Tous les ajouts de receveurs moyens, enfin labellisés, on va dire receveurs moyens comme Agholor, comme Bourne, comme des Hunter Henry, Jonnu Smith dont on avait des doutes, sont tous en train de répondre plus ou moins présents. Ou en tout cas le font de manière alternative et c'est largement suffisant pour cette équipe. Donc je pense que le mérite revient aussi en partie au coaching staff. Et quand je vois que depuis la semaine 7, les Patriots sont à 35 points marqués par match, enfin ouais. qui l'avait envisagé en début de saison?
Mais on va pas se mentir.
Personne.
Hein.
Donc moi je suis. On va voir s'ils arrivent à maintenir ce cap, mais s'ils le maintiennent, je suis plus qu'admiratif devant le travail réalisé par le coaching des Patriots, tout simplement.
Et moi, j'allais te dire, on va pas se mentir, hein, s'ils remportent leur division, allez, on va dire ça, c'est coach de l'année.
Ça, ouais, il va pas, il
moi,
va
je
pas
veux
en
pas
être.
Entendre, je veux pas entendre parler de Cliff Kingsbury ou machin.
Si Cliff Kingsbury finit premier de la NFC avec des matchs sans Kyler Murray, t'auras du mal à pas lui donner.
Ouais, avec trois, quatre matchs. Et
bah ouais, ouais.
Avec un quarterback rookie et Jacoby Myers comme meilleur receveur terminé devant les Bills en AFC Est.
Ouais, mais attends, c'est parce que les Bills. Enfin, bon, bref,
En tout cas, pour gagner la division, on va le savoir tout de suite. Ils jouent les Bills, il y a la semaine de repos. En tout cas, ils jouent les Bills, Colts et Bills. Et entre temps, il y a une semaine de repos. Dans les trois prochaines semaines, on va le savoir clairement.
Ils ont une vraie montée en puissance sur le calendrier. De toute façon, c'est Bills, Colts, Bills. Et derrière, ils finissent avec Jaguars et Dolphins. Mais s'ils passent les Bills au moins une fois, ils ont une bonne chance d'avoir la division qui leur tend les bras derrière. Hein. Donc, ce sera l'affiche de la semaine jeudi, de toute façon, le Patriots Bills, donc on va en parler. Grandement, les Titans, alors on sait qu'ils sont dévastés par les blessures. Ouais. Sachez qu'ils ont battu le record du nombre de joueurs utilisés sur une saison. Déjà maintenant, alors qu'on est en semaine 12. Alors, les effectifs ont été élargis, les règles de liste des blessés sont plus flexibles, hein, mais on est en semaine 12 et ils ont déjà battu le record du nombre de joueurs utilisés par une équipe dans une saison. En tout cas, est-ce qu'il y a une déception? Parce que Ryan Tannehill a 93 yards à la passe, l'attaque n'a avancé qu'avec le sol, 270 yards au sol. Je sais qu'il lui manque des cibles, mais moi, je suis un peu déçu de ne pas voir Tannehill prendre cette attaque en main.
Non, mais alors, évidemment, là, c'est dur. Non, mais aujourd'hui, sur ce match, c'est encore pire parce qu'il n'y a ni Edge Brown, ni. Voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Derrick Henry a peut-être fait qu'on a vu Tannehill un poil plus beau que ce qu'il n'était.
Moi, je te trouve dur aussi parce que on l'a souvent dit, c'est Tannehill, il a été le produit en grande partie, notamment aux Titans, de Derrick Henry, parce que c'est un joueur qui est très bon avec les play action et que Derrick Henry, c'est l'arme fatale dans ce genre de situation, parce qu'il est très bon à la course et qu'on est obligé quand il y a une fin de course de gérer ça, et donc du coup ça fait des play action et du coup ça fait des très belles actions pour Tannehill. Voilà, je te trouve dur parce que pour moi, je suis pas surpris. Tannehill, ça n'a jamais été un énorme quarterback. Là, en plus, il y a énormément de blessés, très peu de cibles, et il perd le running back star. Difficile pour lui de faire mieux que ce qu'il fait.
Ouais, mais...
Ouais, je...
Si tu veux, j'ai imaginé à un moment, je ne sais pas pourquoi, qu'il était un peu meilleur que ça, et que justement, il n'était pas si dépendant que ça de Derrick Henry.
Bah, là où je te trouve un peu dur, c'est qu'à mon avis, un quarterback moins bon fait encore pire, mais je pense que...
Non, c'est sûr.
Derrick Henry, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il est pas là et les Titans continuent à gagner, tu vois. Donc,
Non, mais voilà, je pensais juste que je l'avais vu un peu plus beau que ça.
Oui, peut-être. Je pense qu'on arrive quand même à une limite pour un effectif NFL où à ce niveau-là de blessure, ça devient, chaque match devient vraiment une galère et un 50-50 parce que.
Ah non, mais c'est déjà très honorable qu'ils en soient encore là et qu'ils soient encore si bien classés, hein. On est tout à fait d'accord.
Je trouve aussi.
La défaite des coachs leur fait du bien aussi, parce que mine de rien, il n'aurait pas fallu qu'ils gagnent.
C'est vrai. Derrière, pour le calendrier, ça va. Ils ont quand même encore des bonnes chances de limiter la casse en espérant des retours de blessure, les Titans, parce que derrière, ils ont Jaguars, Steelers, Niners, Dolphins, Texans.
Ils vont remporter cette division, je pense. Mais...
Donc voilà, c'est plus jouable.
Et en même temps, on les a vus perdre quand même contre les Jets et les Texans cette saison. Donc,
oui, c'est ça, petit problème. Et ils ont battu deux fois les Colts, donc ils ont tiebreaker.
Oui, par contre, oui.
Donc ça peut être pas mal. Ravens 16, Browns 10, victoire très compliquée pour Baltimore. 4 interceptions pour Lamar Jackson, un seul touchdown dans l'attaque sur une fulgurance de Jackson pour Mark Andrews. L'important, c'est de gagner. Non, la palissade. Face à une très bonne défense, c'est déjà ça. Du coup, on oublie les erreurs et on dit voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans un soir sans. Et au final, c'est bien de s'en sortir comme ça.
Et là, c'est la théorie que j'avance. En tout cas, c'est moi ce que je retiens de ce match. Lamar Jackson ne fait pas un super match, voire même un mauvais match, mais il arrive à sortir les deux actions qui font que ces deux passes vers Andrews qui les sortent de ce trou, pour être poli. Et donc, il les fait gagner. Il y a ce dernier drive aussi qui leur permet de gagner aussi beaucoup de temps. Voilà, c'était clairement du côté de l'attaque, en tout cas, pas un grand match, mais ils s'en sortent et ils gagnent face à un adversaire de division. On sait que ça ne sera pas comme ça toutes les semaines pour eux en termes de niveau. Donc, c'est bien de gagner ce match.
Jackson, je crois, il y a 2-3 ans, il a entendu « Ouais, il ne fait que des stats en saison régulière quand les matchs ils sont devant et tout. » Maintenant, il ne fait plus que les actions qu'il faut pour gagner.
Non, mais je suis un peu de l'avis de Lucas. D'autant plus, on en parle moins pour les Ravens, mais il y a aussi un lot de blessures assez important pour les Ravens. Il n'y a plus aucun des coureurs de début de saison. Il y a des blessures sur la ligne offensive, sur la ligne défensive. Bon, voilà, dans ce moment, dans ce milieu de saison où t'as plein de blessés, où t'as des matchs un peu raccro, bah, tu vas en gagner un comme il faut. Et je serai fan des Baltimore. Alors, ça va être méchant et désolé pour les fans des Browns, mais je me dirais, bah, au moins, j'ai un quarterback qui peut faire la différence, même quand il est pas dans un grand soir. Et je trouve que ce match fait mal par opposition à Baker Mayfield. Mayfield n'est pas capable de sortir l'action qu'il faut, le coup de génie au moment où il faut, alors que Lamar Jackson le fait et à la fin ça fait la différence, ça fait 16-10 et victoire Ravens quoi.
Mayfield de toute façon souffre depuis maintenant quelques semaines et on voit, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre de plus en plus des questions, est-ce qu'il faut le prolonger, pas le prolonger, est-ce qu'il faut ça se pose de plus en plus parce que comme tu dis il sort rien en fait au moment où il faudrait sortir quelque chose. Si on peut dire ça comme ça, Lucas.
Bah oui, parce qu'en plus il a eu les occasions. Alors j'ai plus exactement le déroulé, mais il a eu les occasions pour repasser devant, pour recoller à la fin de match, et il les saisit pas ces occasions. Et quand le jeu au sol de cette équipe est maîtrisé, comme ça a été le cas dimanche soir, c'est très compliqué pour cette attaque. Et alors pour faire une petite aparté sur les Ravens, mais on parle de l'attaque qui a pas été bonne, mais la défense a été très solide et c'est de mieux en mieux ces derniers temps parce que maintenir quand même cette équipe des Browns à si peu de yards en, au sol, c'est quand même une belle performance, et ce qui rend Mayfield, comme vous le disiez, quasiment impuissant.
Oui, 40 yards au total seulement pour les Browns, avec Kareem Hunt et Nick Chubb qui étaient tous les deux là. Hein. En plus, ils n'ont plus l'excuse des blessures de ce côté-là. Donc oui, c'est très compliqué. Baker Mayfield qui continue en tout cas de faire douter. Au moins, ils pourront un peu se satisfaire de leur défense quand même. Les Browns, toujours un sac pour Garrett et puis 12 plaquages et un demi-sac pour Jeremiah Owusu-Koramoah. J'espère que je l'ai bien dit. C'est aussi une des satisfactions hein, quand même, puisqu'il est rookie. Est-ce qu'on dit J-OK ? J'ai vu que ça s'abréviait. J'ai vu l'abréviation sur des sites.
Ouais, effectivement.
Mais c'est une des belles satisfactions, en tout cas pour cette équipe, le rookie. Bengals 41, Steelers 10. Les Bengals qui confirment leur retour en forme. Deuxième victoire en deux matchs depuis leur semaine de repos. Et quelle victoire ! 198 yards au sol. Joe Burrow patient et efficace. Et puis une défense qui arrache 3 ballons. Vrai match complet. Est-ce qu'on a retrouvé les Bengals de début de saison? Mais j'ai envie de dire en mieux, parce qu'il y a une attaque qui est presque plus complète et patiente. Ça ne jouait pas que du big play, je vois que Lucas acquiesce.
Oui, parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille avec cette équipe, de dire qu'il ne faut pas se reposer uniquement sur ces big plays. Mmh. Et justement, sur ce match-là, ils ont eu des big plays, et c'est bien parce qu'il en faut. Et c'est comme ça qu'est construite cette équipe. Mais ils ont aussi su construire des drives, ils ont aussi su construire des attaques, des cartons. Le match entier, comme tu le disais, c'était une équipe j'ai vu une équipe très équilibrée, que ce soit… Alors, il y a un petit peu plus de course parce que Joe Mixon est très bon sur ce match, mais Burrow fait aussi un match solide. Voilà, quand ils jouent comme ça, je pense qu'ils peuvent être très, très dangereux. Maintenant, je pense que pour cette équipe, il faut apprendre à être constant. Là, ça fait deux matchs. La bye week leur a fait beaucoup de bien. J'aimerais les voir sur la fin de saison. Mais de ce que je vois là, ça doit faire beaucoup, très plaisir aux supporters des Bengals. Pardon.
Je pense qu'ils ont. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été aussi souriants, hein, les supporters des Bengals. 7-4, largement dans la course au play-off. Ils ont les armes. Raphaël, ils sont complets. Hein.
Ils sont complets. Et puis la symbolique de sweeper Pittsburgh cette saison, de leur prendre les deux victoires en deux matchs, ça faisait un petit moment que Cincinnati était derrière les Steelers en AFC Nord. Donc ça veut dire que la franchise va dans le bon sens, parce que tu arrives à rattraper et à combler le retard. Et puis le passage de relais, même si c'est pas un passage de relais direct, mais la comparaison du coup entre un cycle qui se termine avec Roethlisberger d'un côté et un autre cycle qui démarre avec Joe Burrow, bah là forcément, si t'es fan, elle est plus que criante. Comme tu dis, c'est une équipe complète. On en a déjà parlé, hein, cette attaque avec un Mixon qui fait ce qu'il a à faire quand il faut et qui a pas besoin d'être surnourri de ballons pour aussi performer. Donc et la défense, je l'avais déjà dit, hein, il y a plusieurs semaines, mais moi c'est vraiment de mes mea culpa. Je croyais pas aux ajouts défensifs de l'intersaison du côté de Cincinnati. J'avais notamment beaucoup de doutes sur Trey Hendrickson, mais qui est encore très très bon sur ce match. Donc non, tout marche et ils peuvent aller. Et c'est pas fou de les imaginer remporter la AFC Nord, hein, vu les blessures à Baltimore, vu que Baltimore ça galère un peu en attaque.
Et qu'il y a un gros calendrier aussi pour les Ravens, ouais, qui vont jouer deux fois les Steelers, les Bengals.
Bon, en tout cas, c'est pas les Steelers qui vont la gagner, la FC Nord. j'ai l'impression qu'on a vu un peu ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu au sol et trois sacs, parce qu'il y a une ligne dont tout dépend, et quand la ligne prend l'eau, j'ai l'impression, encore une fois, on sait, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre avec ça. Contre les bonnes défenses, ça passera pas. Il y avait une bonne défense en face, ça passe pas.
Pour moi, c'est une des rares équipes. En tout cas, c'est une équipe où leur bilan 5-5-1, c'est typiquement l'équipe moyenne, et c'est une équipe moyenne. Et je pense que ils ont trouvé le moyen peut-être de finir à 8-8-1. Ouais. 8-8 ne devait plus exister.
Oui,
ils ont peut-être trouvé le moyen de... Pour moi, c'est cette équipe-là qui va aller gagner des matchs, parce qu'il y a des individualités, mais qui va en perdre des matchs comme ça et qui au final ne sera plus importante en fin de saison.
Et puis, moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on a déjà vu leur plafond surtout. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui montent en puissance dans la saison. Là, avec Pittsburgh, je crois qu'on sait ce qu'on a, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Je vois pas très bien comment Pittsburgh pourrait faire mieux cette saison. Enfin, si, mieux que de prendre plus 30 points contre les Bengals. Oui, d'accord, possible. Mais mieux, parce que Ben Roethlisberger, on le voit, il a encore quelques lancers brillants par-ci par-là, mais sur l'ensemble d'un match, c'est compliqué. La ligne offensive, tu l'as dit. La défense passe beaucoup de temps sur le terrain et est exposée forcément aux erreurs.
Ça, c'est le prix qu'on doit payer tous pour les quarterbacks qui veulent maintenant prolonger indéfiniment leur carrière. Avant, ils prenaient leur retraite à 33 ans. Voilà, mais maintenant avec Brady, on se tape des mecs qui veulent jouer jusqu'à 36-37 ans parce qu'ils se disent j'ai l'air ridicule, il est à 44, si je m'arrête à 36, j'ai l'air. Voilà. Et du coup, bah, on a des mecs qui sont au bout du bout.
Mais ce qui est bizarre, c'est que la semaine dernière, il fait peut-être son meilleur match, Big Ben, et que là, il retombe dans. Et je l'avais écrit dans le power ranking, mais comme on dit, une horloge cassée, elle donne l'heure quand même deux fois dans la journée. Donc...
ça, bah, et puis peut-être que là, il faisait humide, hein, tu sais, avec l'âge, il y a des semaines.
la hanche. Qui grince.
Je dis ça, on doit avoir quasiment le même âge. Broncos 28, Chargers 13. De temps en temps, les Broncos dominent un match avec leur défense. C'était le cas dimanche. 3 sacks, 10 quarterbacks, 16 pressions, 2 interceptions. Impressionnant, notamment le rookie Patrick Surtain, l'homme qui ne s'appelait pas Justin Fields jusque-là pour les supporters des Broncos. Maintenant, il s'appelle Patrick Surtain avec 2 interceptions. Alors, on parlait de connaître le plafond d'une équipe, c'est pareil. J'ai l'impression que bah là, ouais, les Broncos, ils sont allés en chercher un parce qu'ils ont sorti un gros match défensif et qu'on sait très bien qu'ils peuvent faire ça, quoi. Alors, ils le font très bien.
Hein. Ouais, ils ont battu les Chargers, ils ont battu les Cowboys il y a pas si longtemps que ça. Et entre-temps, ils perdent contre les Eagles, je crois que la semaine dernière, je sais plus contre qui ils perdent. Mais voilà, c'est l'inconstance pure d'une équipe. Mais qui va aller chercher, peut-être en tout cas, qui va se battre pour la première place de la division dès la semaine prochaine face aux Chiefs. Donc c'est surprenant de voir ça.
Après, faut quand même saluer la défense parce qu'ils ont perdu Von Miller cette année. C'était un symbole de voir Von Miller partir. Et Vic Fangio fait quand même quelque chose avec cette défense.
Ouais, après, je pense que tu as dit le bon nom. Vic Fangio, c'est quand même un coach qui a un passif de bonne défense. Et c'est vrai que ça se justifie souvent. Le choix de Surtain au premier tour pour renforcer encore un peu plus ce backfield n'était pas anodin. Parce qu'en plus, on sait que Vic Fangio aime beaucoup les defensive backs. Donc... j'ai envie de dire que personne n'est vraiment surpris par la défense de Denver. Et d'ailleurs, de mémoire, c'est pour ça que beaucoup à l'intersaison, vous voyez les Broncos en course pour potentiellement aller chercher les playoffs parce qu'on disait qu'il y a une bonne défense et qu'il fallait voir comment aller cliquer l'attaque pour voir ce que ça allait donner. Et je pense que ce match, c'est le plafond de Denver. Comme tu le dis, c'est un très gros match. On a un Teddy Bridgewater qui ne fait pas d'erreur. On a souligné quand même, par contre, en attaque, le rookie Javonte Williams au sol qui est de plus en plus bon. De plus en plus performant et qui ajoute un outil, une arme à cette attaque. Mais est-ce que ça sera suffisant en playoff ou pas? D'ailleurs, je ne sais pas, mais bon.
Je ne sais pas s'il y aura playoff, honnêtement. Ça reste trop irrégulier, je trouve.
Après, messieurs, on parle depuis tout à l'heure de cette 7e place en playoff. Oui. Ça ne serait pas déconnant qu'il l'attrape. Il suffit que. Alors, bien sûr que c'est du football fiction, mais il suffit qu'il sorte une performance comme celle-ci contre des équipes comme les. Alors, les Cowboys ne sont pas dans la même conférence, mais comme les Chargers qui pourront être en playoff, comme d'autres équipes qui. Et puis ils peuvent gagner un match de wildcard. Alors ils iront certainement pas au bout, mais ce que je veux dire c'est que c'est une équipe qui peut arriver en playoff et ça me surprendrait pas qu'ils gagnent un match en playoff comme ça, comme une équipe qui peut faire qui pour la gratter quoi.
On parle d'une équipe qui a gagné un match de playoff avec Tim Tebow, hein, donc tout est à plus. Je crois que. Qu'est-ce qui manque aux Chargers en dehors d'une défense au sol?
Bah ouais.
La régularité.
Ouais, en partie une défense au sol, parce qu'offensivement, encore une fois, les actions, elles y sont. Alors, ils se ratent sur la conclusion. Il y a notamment à 7-14 cette interception lancée par Herbert, alors qu'ils sont dans le camp des Broncos et qui fait un peu tourner le match, parce que derrière, tu as touchdown des Broncos et tu passes à 7-21 ou d'une potentielle égalité. Donc, peut-être la ligne offensive, renforcer la ligne offensive et un petit coup en défense, parce que sur le reste... Bon, et la régularité, l'expérience, voilà, ouais.
Lucas, quelque chose à ajouter? Justin Herbert, encore une fois, il y a une interception, c'est pas un grand match pour lui.
Non, c'est typiquement la régularité, je pense. Raph l'a dit, la semaine dernière, ils sont incroyables pendant trois quarts temps face aux Steelers. Ils s'en sortent difficilement dans le dernier, ils remportent quand même ce match. Là, on se dit que c'est censé être un match un petit peu plus facile, en tout cas largement à leur portée, qu'ils peuvent enchaîner, et puis ils perdent. Voilà, je suis quand même globalement d'accord avec ce que dit Raph. Je pense que cette équipe a besoin de temps. Elle n'est pas là où peut-être on les imaginait en début de saison. En tout cas, il faut encore progresser.
Saints 6, Bills 31. Les Bills sont dans la course au playoff. Ils ont gagné. Est-ce qu'on peut vraiment tirer quelque chose de ce match vu ce qu'il y avait en face? Les Saints étaient vraiment dépeuplés. Ils ne gagnent que 190 yards sans Alvin Kamara, sans grand monde. Pour être honnête, la défense des Bills a logiquement pris le dessus. J'ai l'impression que le fait de ce match, c'est la perte de Tre'Davious White sur blessure.
Oui, je pense que ça va leur faire beaucoup de mal. On le sait que c'est l'un des meilleurs cornerbacks de la Ligue. C'est peut-être l'un de leurs meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur. L'année dernière, c'est lui notamment qui suivait une grande partie Tyreek Hill lors de la finale de conférence. Voilà, cette équipe des Bills va se retrouver de nouveau dans une situation face à des grosses équipes comme les Chiefs, comme d'autres équipes de la AFC en playoff. Et sans White, ça peut être plus compliqué, oui.
Raphaël. Il y a des équipes, hein. Les Packers survivent sans Jair Alexander.
Oui, parce que des fois, t'as le système, tout ça, et il y a beaucoup de bons defensive backs du côté de Buffalo, mais c'est vrai que c'est quand même à voir comment ils s'adaptent à cette perte d'un shutdown corner. C'est jamais évident. Les semaines à venir vont nous le dire. Mais oui, après, sur le reste de l'opposition, c'est vrai qu'il y avait tellement pas grand chose en face qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi.
L'attaque vous a rassuré, il y a deux interceptions pour Josh Allen, il n'y avait pas grand chose en face, mais c'est pas un grand match non plus pour l'attaque, quoi.
Non, mais pour moi, ça confirme une nouvelle fois que cette équipe des Bills a besoin de Josh Allen au sol. Je crois qu'il fait 42 yards ou quelque chose comme ça, mais dans des courses importantes. McDermott, on le sait, il a travaillé aux Panthers au moment où Cam Newton était là. Et je pense que, alors il était coordinateur défensif, mais je pense que ça peut être l'exemple à suivre. Et pour moi, ils vont avoir, parce qu'ils n'ont pas un très bon jeu au sol avec leurs coureurs, donc il va falloir qu'Allen soit bon dans ce secteur-là. Et il a été jeudi.
Juste un mot sur les Saints quand même. Taysom Hill pourrait peut-être être titulaire, on vous en reparlera jeudi. En tout cas, ça commence à prendre forme. Dolphins 33, Panthers 10. Bon, alors le rêve Cam Newton, hein, c'est déjà terminé. 5 sur 21, 92 yards, 2 interceptions. On ne peut pas dire qu'on est surpris, mais c'est allé très vite. C'est allé très très vite. C'est-à-dire qu'aux Patriots, il avait fait 3-4 bons matchs avant que ça s'efface tout doucement. Bon, il a fait deux bonnes actions, il est retombé aussi. Lucas fait un signe comme s'il était innocent, qu'est-ce qui se passe?
Non, mais moi je fais un signe parce que je l'ai dit il y a deux semaines, on m'a tapé dessus. J'ai dit que pour moi, on m'a dit que j'étais même sous l'influence de l'alcool.
On t'a tapé dessus.
Non, mais pour être plus sérieux, on le savait ce qui allait se passer. Je veux dire, c'était couru d'avance. Et vous, je sais pas si vous vous rappelez, messieurs, mais il y a deux semaines, je vous le disais dans le podcast, j'espère qu'il ne sera pas titulaire parce que c'est exactement ce que j'imaginais. Alors, voilà, je suis pas en train de vous dire que j'avais tout vu, mais c'était logique. Il est en grande difficulté. Alors oui, et il a dit lui-même, oui, il y a beaucoup de hype, oui, il y a beaucoup de choses qui font que ça fait une feel good story, comme il a dit, mais ça fait pas gagner des matchs parce que son niveau, c'est celui-là.
Bon, en tout cas, retour à la case départ, hein, il leur faut un quarterback. Christian McCaffrey est blessé, tout est normal. Tout est normal à Carolina.
C'est un petit peu le risque. Après, juste pour dire, hein, Lucas, je pense que personne ne voyait Cam Newton faire un comeback et aller tout gagner. C'est juste que quitte à avoir un quarterback mauvais, je trouve ça plus fun d'avoir Newton que PJ Walker, quitte à avoir un quarterback mauvais. Mais après,
bon. Oui, mais honnêtement, je pense que tu as plus de chances de gagner avec PJ Walker. Alors, tu n'as pas de grandes chances, mais tu as plus de chances de gagner avec PJ Walker qu'avec Cam Newton. Ouais, mais.
Ouais, bon, ça reste à débat, je pense. Mais non, mais ça s'entend. Après, comme tu dis, Alain, je sais pas ce que pense le proprio de Matt Rhule et de son general manager, mais eux, suivant comment se finit la saison, ils pourraient quand même avoir chaud aux fesses parce que cet été, ils ont décidé de bazarder Teddy Bridgewater pour prendre Sam Darnold contre plein de tours de draft, machin. Et à la fin, potentiellement, cette saison, ils sont encore plus loin d'une bonne équipe que ce qu'ils n'étaient en débutant la saison. Donc, c'est quand même.
Je crois que tu spoil un peu mon flop, mais on est dans le même esprit. c'est vraiment il tourne en rond là, donc Miami qui continue de bien défendre, en tout cas on a un très bon match défensif, ça il nous l'avait montré ces dernières semaines, et puis on a un excellent match de Tua Tagovailoa et de Jalen Waddle, 9 réceptions, 137 yards, un touchdown. Est-ce qu'ils ont leur duo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont leur chaise bureau à eux?
En tout cas, il a mis peut-être un petit peu plus de temps à se dessiner, à l'instar de Chase Bureau, même de Devonta Smith et Jalen Hurts. Mais en tout cas, il est là. Il y a cette bonne défense. Ils sont sur 3 victoires d'affilée, je crois. Ils jouent les Jets et les Giants dans les 2 prochaines semaines. Cette équipe-là, elle est pas. On les avait enterrés. Moi, le premier, en tout cas, je les avais enterrés. Je sais pas pour vous, mais cette équipe-là, elle est pas tout à fait morte.
C'est The Walking Dead cette saison-là. À chaque fois qu'il y en a un qu'on croit qu'il est mort, il revient.
Enfin, c'est terrible. Tu parlais des équipes il faudrait attendre la semaine 15, mais eux, il y a 3 semaines, ils étaient au fond du trou. Dans 2 semaines, ils peuvent être très bien à cette 7e place.
Ouais. Ils peuvent l'être. Et clairement, Tagovailoa, je dirais même son match d'avant a déjà été très bon. Hein. Ça fait 2 semaines où il enchaîne les bonnes performances. Très peu de déchets dans son jeu. Forcément, ça lui fait du bien d'être aidé par le jeu aérien et notamment Jalen Waddle. Mais c'est de plus en plus intéressant, en tout cas, ce que propose Tagovailoa. Donc, espérons qu'il reste sur cette dynamique.
Et son yard au sol, ça aide aussi, ouais. Lucas.
Ouais, justement, une transaction qui est passée un petit peu sous les radars, mais Philippe Lindsay qui est arrivé à Miami, qui va faire beaucoup de bien parce que c'est pas un joueur très flashy, mais qui peut être très bon dans un comité et qui peut faire du bien à Tagovailoa.
Ouais, donc c'est ce que je disais, hein, là, ils ont quand même passé les 100 yards au sol, ce qui était très, 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 très rare aussi ces derniers temps du côté de Miami. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, des progrès pour Tua Tagovailoa. Giants 13, Eagles 7. Alors là, les progrès, pas vraiment. On est sur un très vilain match. Les Giants n'ont pas fait grand-chose. Philadelphie en a fait encore moins. 4 ballons perdus pour les Eagles, 3 interceptions pour Jalen Hurts. Ils ont encore bien couru, mais quand Hurts sort un match comme ça, malheureusement, tu peux rien faire. Alors, je crois que c'est Victor Roulier, notre spécialiste Eagles, qui nous avait dit sur le Slack pendant ce match, c'est-à-dire que Hurts, il est bon, mais quand il est mauvais, il est très mauvais. Et là, clairement, il n'a pas fait semblant.
Il n'a pas fait semblant. Après, malheureusement pour lui, il a quand même son receveur qui fait 2 vilains drops qui auraient pu, malgré tout, leur permettre de gagner le match. Hein, parce que, à quelque part, alors, je veux pas, la comparaison n'est pas forcément en comparaison, n'est pas raison, mais tu vois, Lamar Jackson, quand il fait cette passe pour Mark Andrews qui permet à Baltimore de l'emporter, si Mark Andrews il drop, on dit ah bah Jackson il fait 4 interceptions et le match est catastrophique et il n'y a pas de coup de génie.
C'est vrai.
Là pour le coup, Hurts il est pas loin de faire son coup de génie avec Réagor. Hein, donc oui, le match est pas bon, mais ils sont pas loin de l'emporter quand même malgré tout. Donc bon, à voir.
Il aurait dû viser Marc Andrews.
Bah, c'est surtout que tu parlais de Pat Surtain qui n'est pas Justin Fields. Si je me trompe pas, Jalen Reagor, il est choisi juste avant Justin Jefferson.
Oui, voilà,
c'est la fameuse. Mais au-delà de ça, alors bien sûr, encore une fois, on est dans la football fiction, mais les deux passes que drop, une qui est un petit peu plus difficile que l'autre, mais les deux passes que drop, je suis pas sûr que Justin Jefferson les drop, celle-ci.
Ah non, bah je pense pas, non.
Non, mais ça, faut pas remuer le couteau dans la plaie, clairement. Choisi juste avant Justin Jefferson.
Non, mais du coup, tout ça, c'était pour dire, au-delà de se moquer Réagor, c'est pour dire que du coup, le match de Hurts est mauvais, mais au final, il passe peut-être pas si loin de passer de l'autre côté du côté où on l'emporte malgré tout, tu vois.
Après, ce match est un peu un microcosme de la NFCS de ces 10 dernières années. Hein. 2 équipes très mauvaises qui se battent jusqu'au bout. Hein. Et sur un malentendu, il y en a une qui gagne. Daniel Jones donc a pas perdu de ballon. Il a trouvé 8 cibles différentes. Ils n'ont pas marqué de touchdown. Mais Freddy Kitchens, donc, qui était le nouveau coordinateur offensif, a plutôt réussi ses débuts.
Ah, je te trouve gentil.
Ouais,
13 points marqués avec 4 pertes de balles en face.
Ils ont pas perdu de ballon. Moi, je vois le positif. Daniel Jones n'a pas perdu de ballon.
Ok.
Non, c'est surtout la défense pour moi. Je sais pas si Raph sera d'accord avec moi, mais pour moi, c'est cette défense qui, depuis quelques temps, est un petit peu mieux, leur permet de gagner des matchs. Et puis finalement, au début de ce match, on se disait que ces deux équipes-là étaient pas forcément dans la même catégorie. Et puis on se rend compte que les Giants battent les Eagles et se retrouvent pas si loin et qu'en fait, on est quand même dans le même niveau.
Mmh. Oui, médiocre.
Et médiocre, c'est et pas encore. Loin d'être gentil, hein, sincèrement.
Oui. Oui, c'est vrai que médiocre, c'est devenu très péjoratif, mais il y a pire.
Bah ouais.
Ouais.
Bah, non, mais ouais.
Oui. Non, vas-y.
Non, je veux dire, Lucas a raison sur leur défense. C'est la bonne nouvelle. Et avec notamment, on en parlait peu, mais leur safety, Xavier McKinney, qui fait une très très bonne saison et qui fait beaucoup de bien.
De toute façon, l'attaque est la variable d'ajustement des Giants. Quand l'attaque décide de jouer, ils ont plutôt une bonne équipe, puisqu'ils ont une bonne défense.
Ouais, mais le problème, c'est quand elle décide de jouer. Enfin, excuse-moi,
ça, par contre, ça, c'est le problème. C'est qu'il y a zéro progrès. C'est-à-dire que Daniel Jones, ça fait 3 ans qu'on dit peut-être que.
Attends, si je dis pas de bêtises, ils ont pas dépassé les 30 points sur les 28 derniers matchs. Enfin, il y a un moment.
Après, je sais que tu adores les citations de Kaamelott, Raphaël, mais moi, pour la défense des Giants, la seule chose que je préconise, c'est de tout cramer pour repartir sur des basses scènes, hein, au point où on en est. Parce que là, je vois pas. En fait,
il
n'y a plus que ça à faire. En parlant de pire que médiocre, les Jaguars jouaient les Falcons. Ça a fait 21-14 pour les Jaguars. Cordarrelle Patterson est de retour. Les Falcons gagnent, zéro hasard. Sans lui, ils n'ont quand même pas grand-chose en attaque. Les Jaguars ont bien défendu Kyle Pitts. Matt Ryan n'a lancé qu'une seule passe de plus de 10 yards dans les airs et hop, elle a été interceptée. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop s'enflammer sur cette victoire des Falcons, non ?
Ouais, alors clairement, il faut pas s'enflammer tout court. Cordarrelle Patterson, voilà, c'est tout ce que je retiendrai de ce match. C'est vraiment un joueur qui, voilà, qui renaît de ses cendres, qui est incroyable, et c'est le meilleur joueur de cette équipe tout simplement. Parce que Pitts n'est pas encore très constant, donc voilà, c'est tout ce que je retiens.
Et puis moi, j'ai envie de dire Patterson MVP. Sans lui, 0 points, avec lui 21 points. Valuable.
Pourquoi pas?
c'est aussi simple que ça. Raphaël, enflammé par cette équipe des Falcons, je suppose.
Ouais, enflammé, ouais, c'est le mot. Non, bah, vous avez tout dit, et sur les Falcons, on a quand même tout dit depuis plusieurs semaines. Enfin, pareil pour eux, les matchs. Autant il y a des équipes irrégulières, autant eux sont globalement réguliers dans ce qu'ils font depuis plusieurs semaines, hein, c'est-à-dire très moyens, et voilà. Enfin.
Oui, ils battent les faibles, ils perdent en contre plus fort, et on est à peu près réguliers là-dessus. Les Jaguars, eux, c'est pas toujours ça. Il y a eu des offensives, mais 1 sur 3 dans la red zone, parce qu'au final, ils sont qu'à un touchdown, hein, donc s'ils convertissent un peu plus dans la red zone, c'est plus serré. Trevor Lawrence est toujours mal entouré, il est à 0 sur 6, et une interception sur les passes en profondeur aussi. Enfin, il y a rien qui va, j'ai l'impression qu'il progresse pas, mais en même temps, comment on peut lui reprocher, et ainsi de suite, quoi. C'est le cercle vicieux. J'ai vu Raphaël tweeter, je crois, pendant le match, disais que tu voyais pas des bonnes choses, notamment dans la zone rouge.
Effectivement, moi je le vois pas progresser, donc ça m'embête, parce que j'aime bien, dans une saison rookie, voir un quarterback qui, où t'as l'impression qu'il y a eu du progrès entre le match 1 sur le terrain et le dernier match. Donc ça m'embête. Après, j'entends aussi ceux qui me disent que il a pas grand chose pour l'aider à progresser. C'est vrai, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Mac Jones a un coaching, donc il peut progresser. Un bureau pour progresser, on lui a mis un Jamar Chase, un Tagovailoa, on lui a mis un Waddle. Voilà. Donc effectivement, j'entends.
Après, moi, j'arguerais que Bureau était quand même plus impressionnant sur sa saison rookie. Non, Sanchez,
je trouve aussi, mais bon, j'entends, tout ça pour dire que j'entends ceux qui pensent qu'il n'est pas assez bien entouré, clairement.
Lucas?
Moi, je suis d'accord pour dire que certes, on peut pas éluder le fait qu'il est pas bien entouré, mais quand même, j'aimerais voir plus. Voilà, j'aimerais qu'il y ait des. Alors, il y avait eu un drive qui était pas mal. Je crois que c'était contre les Broncos, si je me rappelle bien. C'était le tout premier. Et puis après, il y a plus rien. Et puis il y a une passe. J'aimerais avoir, voilà, un drive de temps en temps, un carton, une mi-temps de temps en temps. J'aimerais en voir plus. Quelque chose qui me fait dire, ok, ça vaut un numéro un. Il est pas prêt encore, mais il peut. Là, c'est vrai que j'ai peu à me mettre sous la dent. Je suis assez d'accord avec Raf.
Lions 14, Bears 16, field goal de la victoire en fin de match pour Chicago. Matt Nagy est sauvé, hurra. Ça reste quand même extrêmement laid. Oui. Je vois que ça vous inspire, ce match. Là, on arrive dans le dur, là, on arrive dans le match là où, là, ça parle la passion. Là.
Mais c'est surtout que, bon, on en a parlé beaucoup pendant le live de Thanksgiving.
Oui, c'est vrai qu'on l'a fait dessus en plus.
Ouais. Raph n'était pas là, donc je vais peut-être lui laisser, mais c'est juste qu'avec avec Greg.
Je ne sens pas obligé de me le laisser.
Bon, non, mais c'est surtout, moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que, et on l'a dit, donc peut-être ça va faire redite pour ceux qui étaient avec nous, mais ils sont partis pour ne gagner aucun match du côté des Lions. Et en fait, dans cette saison où on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, un 0-16-1 ferait encore plus tâche. Alors, certes, ouais. Dans des années, on oubliera, mais à la fin de la saison, et je parle notamment pour Dan Campbell, ça va faire encore plus tâche de se dire que les Lions n'ont jamais réussi, alors ils n'en sont pas là, mais n'ont jamais réussi à gratter un match comme a pu faire les Jets, comme a pu faire les Dolphins et les Jaguars.
Mais je vais te dire, moi je trouve qu'il y a une affection pour les Lions, parce que tout le monde dit oh les pauvres, ils ont encore perdu de peu, ils n'ont pas de chance, ils ont ceci. Moi je trouve qu'en fait ils ont un avantage pour ne pas se faire tomber dessus, c'est qu'ils sont mauvais, extrêmement mauvais, mais ils sont pas spectaculairement mauvais. C'est-à-dire qu'ils font pas des énormes erreurs, des gaffes comme les Jets de la grande époque ou les Bengals de la grande époque. Ils sont juste très, très régulièrement mauvais, sans être spectaculairement nazes. Ce qui fait que tout le monde croit qu'ils sont pas loin et qu'ils sont mignons et tout.
N'est-ce pas encore plus triste?
Mais c'est possible. Ouais, in fine, c'est pas mieux en tout cas. Hein. Donc, ils ont un mauvais quarterback, ils prennent beaucoup de pénalités. On les trouve mignons et courageux parce qu'ils font pas d'énormes cagades en fait.
Ouais, voilà, il y a un double temps mort qui est sale, hein, quand même, sur une 3e et 9, oui. dans le dernier quart-temps, pour reparler d'Anne Campbell, voilà, sur son CV, ça fait pas beau.
C'est de l'erreur de coaching, ça fait pas des vidéos YouTube dont tout le monde se moque, tu vois.
Et du coup, je vais bientôt demander et lancer un groupe de soutien et de remise à l'honneur de Jim Caldwell, qui avait été viré après deux saisons positives chez les Lions et qui depuis, c'est encore pire.
Ouais, et puis lui, il a même pas retrouvé d'équipe, Jim Caldwell.
Non, non. Et du coup, en fait, faire 9-7 avec les Lions, il faudrait peut-être lui rendre hommage, hein, parce que c'est peut-être pas si évident que ça.
C'est vraiment bizarre. Hein. Il a dû, un mot sur Chicago ou pas? C'est pareil, on a dit, on a un peu fait le tour du sujet Chicago ces dernières semaines. Ouais. On en a parlé pendant le live. Washington 17, Seattle 15. Seattle, qui est une équipe absolument débordée maintenant dans les tranchées. J'ai l'impression qu'il y avait une, dites-moi si je me trompe, mais moi en regardant ça, j'avais l'impression qu'il y avait une vraie opposition avec d'un côté une équipe qui sait qu'elle n'est pas exceptionnelle et qui joue sur ses fondamentaux, c'est-à-dire Washington. Mm-hmm. Ils savent qu'ils sont pas bons, ils font ce qu'ils peuvent faire pour aller chercher la victoire, et une équipe qui croyait qu'elle était bonne et qui du coup espère des miracles.
Ouais, ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un peu, effectivement, parce que Seattle, ces dernières saisons, tenait trop sur des miracles de son jeu offensif et de son jeu aérien spécifiquement, et que là, ça marche pas parce que Russell Wilson, depuis son retour de blessure, est absolument catastrophique, que ce soit dans les lancers ou la lecture, hein, parce que pareil, sur la conversion à deux points qui réussit pas, il y a DK Metcalf qui est tout seul dans la end zone, enfin, bon, voilà. Donc oui, quand un des seuls types qui permettait de tenir à flot le bateau coule, bah, c'est tout de suite plus compliqué.
Lucas.
Ouais, je suis assez d'accord. Et puis après, ça donne deux dynamiques totalement opposées. On a d'un côté les Seahawks qui, pour moi, c'est terminé. Voilà, on peut les enterrer.
Ah, alors, oui,
peut-être que, parce qu'en plus, ça joue les 49ers, les Rams et les Cardinals avant la fin de la saison. Donc, alors, je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, je crois que c'est à peu près dans cet ordre-là. Donc, voilà, on peut les enterrer. De l'autre côté, on a Washington qui est, je crois, la septième équipe qualifiée pour l'instant, si on a resté là, avec un bilan négatif, et qui, eux, vont jouer les Raiders. Et après, ils enchaînent cinq matchs contre les équipes de l'AFC Est. Cowboys deux fois, Giants. Et d'ailleurs, Alain, tu le disais tout à l'heure, les Cowboys, ils sont à peu près sûrs d'être premiers de la NFC Est. Ils jouent deux fois contre Washington. On ne sait pas, on ne les a jamais vus jouer. On le sait que dans les matchs de division, ça peut être des histoires de match-up qui vont et qui ne vont pas. On a vu les Cowboys être en galère contre les Broncos. Avec cette défense un petit peu retrouvée de Washington, s'ils les battent deux fois, voilà, une fois, on est dans la football fiction. Mais...
J'avoue que cette fin de calendrier est épique. Raiders, Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants.
Je ne serais pas surpris. Enfin, quand on voit ça, on se dit que finalement, les Cowboys, s'ils continuent comme ça, ils ne sont pas assurés.
Alors, en tout cas, moi, s'il y a un truc dont je suis sûr, c'est que Cowboys, Eagles, Giants, ne mettez pas un euro sur ces matchs. Parce que c'est de la NFC Est, fin d'année, tout est possible.
Mais le pire, c'est qu'en plus, on va en avoir des matchs comme ceux-ci en prime. Je ne sais pas dans quelle semaine, mais c'est sûr qu'on va se faire tomber en prime.
C'est possible, ces équipes-là, c'est prime time, même quand c'est horrible. Mais en attendant, bon, c'est encore une fois, c'est Fear the Walking Dead, mais Washington est de retour. Raphaël, tu faisais la moue, Taylor Heinicke en playoff, ça t'ambiance pas, quoi.
Non, c'est pas. Bon, à la limite, Taylor Heinicke, il y a un quarterback assez marrant à voir. Hein. Là, dans le match, notamment, il y a un moment où il esquive un sac en se baissant et le défenseur lui passe complètement au-dessus, enfin, de manière assez spectaculaire. Il est assez fun à voir jouer, donc je n'ai pas tellement de problèmes avec Washington. C'est juste que, encore une fois, c'est un autre débat, mais est-ce qu'il fallait vraiment une septième place en plus quand on voit pour le moment quel type d'équipe a le septième spot en playoff? Bon, pour la qualité globale, on va dire.
Ah, mais on n'est pas là pour la qualité globale, on est là pour l'argent.
C'est vrai. C'est vrai.
Il fallait me le dire.
On oublie parfois, mais.
Voilà, deux équipes de plus, deux matchs de playoff de plus, deux droits en plus. Et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Hein.
Non, mais. Après, du coup, malgré tout, hein, Washington enchaîne les victoires et ils commencent à retrouver la dynamique de fin de saison dernière qui les a emmenés en playoff. Ouais. Donc, c'est que Ron Rivera est sur la bonne et le bon chemin. Hein.
Moi, c'est ce que j'allais te dire. Plaisanterie mise à part, il faut quand même saluer le boulot de Ron Rivera qui fait quand même. On parle souvent de coach bâtisseur. Je ne sais pas s'il peut faire passer le cap à une équipe, mais c'est vraiment un bon bâtisseur.
C'est un bâtisseur, je suis d'accord. Ouais, clairement.
Il est vraiment très très bon. Là, ils ont joué sur leur force. Hein.
Détroit, ouais, peut-être bien d'essayer de.
Ils ont joué sur leur force. McKissick au sol. Enfin, ils sont vraiment bons. Même en défense, il y avait des absents pourtant en défense. Ils s'en sortent quand même.
Donc, 40 minutes de possession.
Et en plus, 41 minutes de possession. Donc il faut saluer ça. Donc Washington est de retour dans la course au play-off. On termine avec deux équipes qui sont définitivement mortes. La promis, c'est les deux seules qui s'affrontaient. Texans 14, Jets 21. Les Jets ont gagné 157 yards au sol. Zach Wilson a marqué au sol. Leur défense a tenu les Texans. C'est pas un énorme exploit, mais bon. Baby steps, comme on dit. Baby steps pour les Jets. Un touchdown de Zach Wilson au sol et une bonne défense. C'est déjà ça.
Ouais, c'est déjà ça, mais c'est pas rassurant pour Zach Wilson. Hein. On parlait de Trevor Lawrence et Zach Wilson, voilà, il faisait son retour. En plus, il se reblesse. Alors, voilà, les news, on verra exactement, mais il se reblesse. On l'a vu sur une des dernières actions de ce match-là. Alors oui, c'est bon signe pour les Jets parce qu'ils gagnent avec leur quarterback qui est pas bon. Ils font 157 yards au sol, ils font 5 sacks. Ce sont des bons signes, mais on sait qu'ils vont pas jouer les Texans toutes les semaines.
C'est souvent le problème pour ces équipes-là.
Pas mieux.
Bon, ouais, Wilson prend 4 sacs, en effet. Il est à 14 sur 22 pour 145 yards. J'ai une super stat sur Zach Wilson, mais je vous la donnerai que dans l'émission jeudi pour les previews. Comme ça, je fais du teasing. Le top et les flops. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, ton top.
Ben mon top, pour ceux qui ont le Game Pass et qui ont envie de se remettre un match, je conseille quand même fortement le Buccaneers The Colts, qui était vraiment agréable à regarder. Des belles actions offensives, défensives, du suspense. Sachant que sur les 2-3 dernières semaines, on n'a pas forcément été très gâté en beau match. Je conseille à tous ceux qui ont envie de se qu'ont 40 minutes là, en condensé, en pause du repas, n'hésitez pas.
Même pendant le boulot.
Je n'irai pas plus loin.
Je plaisante. Lucas.
Ouais, je confirme, c'était un super match. Moi, j'ai deux tout petits flops, je me permets. C'est deux actions et malheureusement, on
mais
est à la radio.
Top, donc... alors
deux tops, pardon. Deux tops, ah, deux bon. Tout petits tops. Excusez-moi, je confonds. Je ne sais plus si on commence par le top ou le flop.
C'est toujours. Quelle négativité.
Non. Deux tout petits tops. Très rapide. C'est le touchdown de Stephen Diggs. On a vu la vidéo tournée, mais qui fait danser la Timor. C'est très beau. Voilà, je vous le conseille sur Twitter. Ça se retrouve très facilement. Et aussi la félicitation de Miles Garrett sur le touchdown de Lamar Jackson aussi, qui est très sympa parce que c'est limite un défenseur qui lui dit, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais t'as été plus fort. Et c'est très sympa à voir.
Très bien, en effet. Stephon Diggs, oui, c'est sur son tracé hein, qui fait danser Marshawn Lattimore, on précise pour ceux qui ne l'ont pas vu. Moi, le top, c'est Joe Mixon. Alors, pas particulièrement pour ses qualités humaines, mais comme je sais séparer l'homme de l'artiste, je vais parler du joueur de foot. Non, mais qui a des super instincts, quoi. C'est un vrai... ce qu'on dit, c'est un bon joueur de football, quoi. C'est vraiment ce mec qui a... Parce qu'il y a un moment où il récupère un ballon sur un rebond ou un ricochet, je sais plus, sur un défenseur ou quelque chose comme ça.
Incroyable, cette action.
Voilà, il fait des trucs qui sont quand même incroyable, et c'est un de ces coureurs polyvalents, très très fort, qui était un peu qui est pas parmi les stars de la ligue, parce que je pense que justement Cincinnati, c'est pas hyper glamour et ils sont pas très mis en avant et ils perdent énormément depuis qu'il est là, donc voilà, mais c'est au final, dans ses bons jours, c'est un des tout meilleurs coureurs de la ligue, je pense que on peut le dire assez certainement. Lucas, allez, vas-y. Les flops, c'est maintenant. Tu peux y aller.
Les flops, c'est maintenant. Mais j'en ai qu'un. Et en plus, c'est un mini flop. Je suis un petit peu dur. Mais pareil, pour ceux qui ont le League Pass, il y a Drew Brees qui a fait son premier match en tant que commentateur. Et ça n'a pas été grandiose. Ça n'a pas été grandiose du tout. Et en fait, il est un petit peu mis dans le dur à cause de Tony Romo qui est arrivé et qui a été, lui, grandiose. Et en fait, je m'attendais un petit peu à du Tony Romo, quelqu'un qui venait de sortir du terrain, qui en plus, il commentait le Bills Saints. Donc, il connaissait un petit peu une des deux équipes à minima. Et ça n'a pas été, j'ai pas beaucoup apprécié. Donc c'est le petit flop de la semaine.
Mais il était quoi? Il était un peu fade et consensuel? Ou
Oui. C'est vrai que c'était un petit peu, c'était un petit peu fade. C'était un peu fade et poncif, mais des choses où je me disais, mais est-ce qu'on n'irait pas un petit peu plus en profondeur pour quelqu'un qui connaît? Alors je pense qu'il cherchait la limite entre ce qu'il pouvait dire et ce qu'il pouvait pas dire. C'est pas évident et je suis le premier à le reconnaître. Mais c'est vrai que je pense que ça c'est vraiment il est vraiment dans le dur à cause de Tony Romo, dans le sens où il a montré un exemple que tout le monde ne peut pas faire, parce que être un très bon quarterback n'est pas automatique par rapport au fait d'être un très bon commentateur.
Après, sans être trop méchant, Drew Brees n'a jamais particulièrement brillé pour son incroyable personnalité et enthousiasme. Et, ça a toujours été Monsieur Lys quand même, non?
Oui, mais Tony Romo n'a pas non plus été... C'était pas forcément quelqu'un qui rayonnait par le fait d'être, hyper... Et c'est pourtant, au commentaire, il est quand même incroyable.
C'est vrai. Raphaël, ton flop.
Ça va être compliqué d'aller à la Nouvelle-Orléans, Alain, là.
J'ai juste dit qu'il était un peu lisse, j'ai pas dit qu'il était méchant. Hein.
C'est un peu un demi-dieu, là-bas. Bref. Ouais. Mon flop, les Panthers, mais je crois que t'avais le même, du coup. Les Panthers, non, parce que du coup, ça inclurait les joueurs, ce qui n'est pas le cas. C'est plus le management et la gestion des Panthers. Sur ce cas, Teddy Bridgewater, et pourtant... vous savez que je suis pas un grand fan de Teddy Bridgewater, mais ce mouvement d'intersaison de virer Teddy Bridgewater pour prendre Sam Darnold, plus des tours de draft.
Tu veux le détail? Moi, j'avais noté le détail, en fait.
Bah, vas-y.
Ils ont lâché Bridgewater en échange d'un choix du sixième tour. J'avais mis ça dans les sons de la semaine, en fait. Donc, ils récupèrent un sixième tour pour Bridgewater. Derrière, ils ont lâché sixième, quatrième et deuxième tour pour Darnold. Donc, ils perdent quatrième et deuxième pour que Darnold finisse sur le banc et qu'ils reprennent Cam Newton, le mec qu'ils avaient viré pour prendre Teddy Bridgewater.
Ouais, c'est quand même... Et le truc, c'est qu'on voit pas très bien sur ce que Darnold a fait en début de saison. On voit pas très bien ce qui pourrait renverser la vapeur, on va dire, du cas Darnold d'ici la fin de l'année, année prochaine. Donc, ça veut dire que les Panthers semblent avoir fait vraiment un pas en arrière assez important, même pas un pas de côté, parce que on était plusieurs à penser que Darnold, c'était l'équivalent de Bridgewater, et donc c'était finalement un pas de côté. Non. Et ben, est-ce que c'est même pas un pas en arrière?
Bah, et puis, ils ont perdu 2 ans.
Donc, c'est terrible. Terrible.
Matt Rhule et son GM ont perdu 2 ans, quoi. C'est ça qui est...
Ouais.
Parce que lui, il arrivait quand même avec cette étiquette en plus génie offensif, je vais prendre un quarterback, machin. Et puis, petit flopounet quand même, les Bears ont gardé Matt Nagy. Ça, je dis rien.
Voilà. Ah, c'est un field goal, hein, parce que je pense que s'il perd, à mon avis, il est dehors.
Je sais pas. Alors, est-ce que... Attention, hein, je passe en mode complot facile. Mais mardi, il y a un journaliste qui sort que les Bears vont le virer après le match. Le proprio entend ça, il est vexé de la fuite et il dit « je le garde jusqu'à la fin de la saison parce que ça m'a énervé la fuite. Parce que je veux pas avoir l'air d'un con et ça a fuité et…
Peut-être.
Ouais.
Parce que ça avait du sens de le virer à Thanksgiving pour avoir du temps pour préparer la semaine d'après avec l'intérimaire. Donc là, il y a peu de chances qu'il soit débarqué en cours de saison maintenant, à part catastrophe. Mais bon. En tout cas, voilà, toujours Matt Nagy. Donc a priori, il sera là jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 456 du podcast Jean Actu. Et on salue évidemment Matt Nagy s'il nous écoute. Cette émission vous est présentée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes de Noël qui approchent, vous profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Les liens sont sur le site dans l'article du podcast. Et évidemment, vous retrouvez les magasins JD Sport près de chez vous. On vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Julien Brossillon, Romanitou62 se sont ajoutés cette semaine. Et ils sont déjà dessus d'ailleurs. Je les ai ajoutés, mais les nouveaux sous-verts de Noël sont disponibles sur notre page Tipeee. N'hésitez pas à aller y faire un tour et puis on mettra un article sur le site pour vous les présenter. Ça ressemble à une boule de Noël avec un bonhomme de neige qui tient un ballon de foot. Vous allez voir, c'est super cool. Si vous avez adoré les sous-verts de Thanksgiving, eh bien sachez qu'ils sont du même auteur. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Instagram @TDActu en entier et Facebook @TDActu. Les Twitter perso @Elvola, @Raphaël_TDA et @AlainMattei. T'as vu Lucas, j'ai noté, j'hésite même plus, je te demande même plus. Ouais.
C'est noté
sur ma fiche, t'es là jusqu'à 2028.
Je suis presque déçu, du coup ça devient un running game.
Ouais, désolé. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Raphaël.
De rien.
Merci messieurs.
Lucas, on se retrouve jeudi dans le fauteuil. Pour la preview, on parlera des 49ers notamment. On va se demander jusqu'où ils peuvent aller. À jeudi, ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.